Bonjour, Catherine Doré au micro, qui vous accompagne pour la prochaine heure et demie. Vous écoutez La Voix de la librairie, émission enregistrée à la librairie Saint-Jean-Baptiste à Québec, diffusée à CKIA et disponible en podcast sur le site de Radio Fiat Lux. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux femmes. Mes invités seront des femmes et nous parlerons de sujets qui concernent les femmes. Il sera donc question de solidarité féminine, du rapport au travail lorsqu'on est mère. Nous parlerons bien sûr de féminisme et de post-féminisme, de Simone de Beauvoir à Judith Butler. Mais d'abord, le volet artistique de l'émission. Comme vous le savez, on accueille toujours un auteur ou un artiste à l'émission. Aujourd'hui, il me fait plaisir d'accueillir une artiste de Québec, écrivain, poète et traductrice littéraire. Il s'agit de Sylvie Nicolas, que plusieurs d'entre vous connaissez sans doute. Elle a publié près d'une trentaine de titres, dont une quinzaine pour la jeunesse. Alors, on va débuter l'émission hardiment avec les mots de Sylvie Nicolas. Et en attendant qu'elle s'installe, on va écouter une pièce musicale d'une musicienne, qui a été choisie par Sylvie. Je vais laisser L'homme qui a vu l'homme vous la présenter. Il est là, fidèle à son poste. L'homme qui a vu l'homme, tu es bien là?
Oui, je suis tout à fait là.
Même si c'est une émission pour les femmes, on a accepté ta présence ce soir.
Ben je me ferai tout petit devant une poupée. Il y a quelqu'un qui chantait ça déjà.
Oui. Alors, tu nous présentes la pièce?
Alors, c'est une pièce d'Agnès Obel. Je peux juste à peu près vous dire que le titre, c'est « Words are dead ». Agnès Obel, moi, je pense que ton invité la connaît beaucoup mieux que moi. Alors, elle va peut-être avoir l'occasion d'en glisser un petit mot après qu'on l'écoute, mais c'est très intéressant. Je l'ai écouté plusieurs fois avant de m'en aller.
On l'écoute.
Lower them down in the ground. monde parallèle. Mon monde virtuel, mon humanité entière est mise en conserve en 140 caractères. Toi comme moi, on a l'air de deux poèmes déguenillés, deux petits poèmes auxquels on aurait ouvert les veines, découpé les artères en les saignant par la langue. Des poèmes qu'on assassine, ça agonise, mais ça ne meurt pas. Avec nos têtes de réfugiés, de laissés pour compte, on nage dans le porno mindland, les bras pendus à l'étal du boucher, les poignets tailladés, les doigts portés disparus, les jambes dans l'interminable marche du condamné. Notre cœur en bandoulière se fracture, mais un cœur fracturé, on le sait, ça ne saigne pas. On se retrouve avec des pinces de désincarcération dans le fond de la gorge, sans lèvres pour embrasser les tendresses du siècle, nos corps privés de nos hanches pour le bercement, nos ventres pillés, désertés par la fabrique de sens, tout nus, dans un blog « All you can eat », sans nos membres, sans nos souffles, sans nos têtes de pioche, sans nos théâtres d'ombre, à chercher Godot, sa dernière bande. Nos ventres se referment sur du vide, puis un ventre vide, on en convient, ça ne saigne pas. Toi comme moi dans la chaîne alimentaire, usiné, transformé pour planète affamée en tartare, en caviar, noyé de ketchup, de moutarde ordinaire, de purée, de petits pois, on se laisse avaler. Puis une fois avalé, ben c'est vrai, on saigne pas. Toi comme moi, nos histoires émincées au hachoir, servies sur un nid de gravole, dans le web, dans un blog, au journal de fin de soirée, quand le monde explose, qu'un enfant est assassiné, qu'une femme est retrouvée sans identité, que des jeunes disparaissent de la face de la terre. On reste seul, avec nos doutes, dispersés, éparpillés convenablement, nos rêves éviscérés, dans une danse à 10 sur YouTube, nos espoirs, nos désirs, saignés, comme on saigne un cochon, un veau, une vache, Shakespeare, avec une pomme dans la gueule pour la garniture, en gastrophobie, en filet mignon, en grillade, en paupiette, en terrine, en timbale, à regarder tomber entre nos doigts le monde entier, régurgité. Puis le monde régurgité, ça se peut que ça saigne. Mais aux actualités de fin de soirée, ça ne salit pas le plancher, puis ça n'empêche pas la terre de tourner.
Merci beaucoup, Sylvie. Quel était le titre du poème?
Ça ne saigne pas.
Ça ne saigne pas. Mais ça fait mal.
Mais ça fait mal quand même, ouais.
Tu as choisi une pièce de Aubel.
Oui, Agnès Aubel.
Et le titre de la pièce, est-ce que ça avait un lien avec le poème que tu nous as lu?
D'une certaine façon, oui. Words are dead. C'est que de plus en plus, le langage a plus le poids qu'il avait. Puis il est de plus en plus, en tout cas, les sens sont détournés. On détourne les sens. Et d'une certaine façon, on laisse le langage du cœur, de l'esprit, de l'âme. En tout cas, les vraies choses qui doivent se dire ou qui sont dites sont vraiment laissées par terre et on marche dessus.
Oui. Toi, tu as une longue histoire avec les mots. Ça fait quand même plusieurs années que tu écris. Comment t'es venue à l'écriture? Comment s'est développée ton écriture avec le temps aussi?
Moi, je savais pas que j'écrivais. Pendant longtemps, je savais pas que j'écrivais. Je pense que j'écrivais, mais je n'avais pas la conscience d'être en écriture ou d'être en train d'écrire. Donc, j'écrivais comme d'autres tricotent. C'était ça.
Tu écrivais pour toi le soir ou le matin?
Oh non, il n'y avait pas de soir, pas de matin, c'était n'importe quand.
OK, mais t'écrivais?
Sur n'importe quoi. Oh, OK. Oui. Okay. Même des napperons ou dans des restos où des fois ils mettent des choses en papier, je me mettais à écrire, je déchirais le morceau, je mettais ça dans un carnet. J'avais beaucoup de carnets, par exemple.
OK.
Puis pour me faire à croire que j'écrivais pas, je sautais des pages, je tournais le carnet en envers, j'écrivais croche, je recommençais par la fin. Donc je dispersais mes mots et je m'assurais de ne pas construire de suite. De cette façon-là, je me convainquais que je n'écrivais pas.
OK. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu développais? À ce moment-là, tu travaillais sur les mots, sur le sens des mots, sur l'agencement des mots?
Non. C'était toujours des coups de cœur et je dirais des coups de gueule parfois ou des images poétiques qui me frappaient... en plein dans le front. Puis si je croyais, disons, si j'étais capable de croire au troisième œil, je dirais que ça me dévissait le troisième œil, puis tous les chakras s'en allaient. Donc, nécessairement, ce qui m'intéressait, c'était plus de capter l'émotion que je ressentais puis l'image qui me venait. Donc, j'ai longtemps dit de moi que j'étais quelqu'un qui faisait de la capture d'instant. Et ça a vraiment été comme ça. Et ce qui a déclenché le premier récit, c'est le fait qu'un goéland est venu mourir sous mon escalier. Quelqu'un avait mis du poison, j'imagine, sur son toit pour pas qu'il y ait de goéland qui s'installe là. Mm-hmm. Puis il est tombé dans la cour en essayant comme vraiment probablement de sauver. Puis il a vraiment été sous l'escalier. Puis pendant 2 heures, je l'ai regardé mourir.
C'est particulier comme expérience?
Oui, moi, je veux dire, Jonathan Livingston, le goéland, là.
C'est du vécu?
Le mien, il est à l'inverse. Il est vraiment pas envolé dans le ciel avec toute la beauté des choses. Il est vraiment tombé en dessous de mon escalier, puis j'avais hâte, épate, qu'il meure, parce que ça m'inquiétait beaucoup de savoir qu'il souffrait.
En consultant un petit peu tes notes biographiques, j'ai vu que tu développais plusieurs styles d'écriture, parce mm-hmm. que, comme j'ai dit au début, tu es poète, mais tu es aussi, tu écris aussi des essais, tu écris des oui. récits, des livres pour enfants. Qu'est-ce qui t'a amené à développer comme ça autant de...
Peut-être que si j'étais à l'école aujourd'hui, on dirait de moi que j'ai besoin de Ritalin. C'est possible. mais je me pose pas de questions. Hein. Je passe d'un genre à l'autre. Je me définis vraiment comme une nomade. Je suis une curieuse. J'ai besoin d'être dans l'inconnu. J'ai besoin de découvrir des nouvelles affaires. J'ai besoin de comprendre comment ça marche. Donc, je cherche pas à me classer dans un genre. Je cherche plutôt à mieux comprendre ce que je comprends pas. Ce qui fait que c'est comme ça que je traverse beaucoup de genres. Et moi, je suis un peu comme ce que Pirandello disait là, dans 6 personnages en quête d'auteur. C'est quand ça se présente à moi, la première phrase, je ne sais jamais tout à fait si je suis en train d'écrire un texte pour enfant, un poème. C'est comme à la deuxième phrase que je sais où est-ce que je suis rendue. Alors, j'attends toujours comme la première phrase, puis les premiers mots d'un personnage pour comprendre à quoi j'ai affaire.
Est-ce que ça t'a causé des problèmes dans ta carrière, le fait d'avoir plusieurs cordes à ton arc? Comme ça, on dit que c'est bon d'avoir plusieurs cordes à son arc, mais parfois, ça nous joue des tours.
Je dirais les 10 premières années, c'était très difficile parce que mon travail était considéré comme trop agité et comme si j'arrivais pas à me classer ou à me définir une place
C'est
précise.
Curieux parce que c'est plutôt la mode en ce moment, le fait de mélanger plusieurs styles, plusieurs genres.
Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, ça devrait être ça, c'est-à-dire une grande ouverture d'esprit, vivre et laisser vivre, le métissage des genres, je dirais le nomadisme, c'est tout à fait dans la foulée des courants actuels de l'époque. J'ai la prétention avec le recul de croire que j'étais déjà dans le courant qui s'annonçait.
C'est très bien, il faut avoir cette prétention-là, quand elle est exacte.
Oui, mais dans les 10 premières années, on m'a souvent considérée comme étant singulière, inclassable, puis c'était pas toujours positif, là.
Oui.
Même si ça soulevait beaucoup de méfiance.
Eh bien, on espère que les gens vont réussir à suivre maintenant, vont mieux comprendre la démarche.
Ça va mieux maintenant.
j'ai vu aussi que tu travaillais sur un essai. Un essai dans lequel on parle de la perte de la poésie dans le monde, du recul de la poésie dans le monde. J'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur ce travail.
En fait, ce qui arrive, c'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup avec les livres pour enfants de rencontres dans les écoles pendant plusieurs années. Puis j'étais vraiment assez découragée de voir qu'on n'enseignait pas la poésie au Québec. Ça se fait ailleurs hein, quand même. Je veux dire, dans des sociétés comme la Hollande, qui sont à peu près aussi grosses que le Québec, dès la primaternelle, on enseigne la poésie. On ne fait pas juste enseigner des comptines pour leur apprendre à lacer leurs souliers. Là, mm-hmm. C'est vraiment, on n'a pas peur de la poésie.
Au primaire?
Même à la primaternelle.
Oui.
Mais ici, il faut attendre qu'ils arrivent au cégep, là, puis qu'ils aient le goût de se suicider pour commencer à leur enseigner la poésie.
On a comme l'idée que la poésie, c'est bon pour les adolescents avant.
Là, ils ont un suicide, là, peut-être qu'ils vont se suicider. Là, ils peuvent écrire un poème, puis ils peuvent avoir recours à la poésie.
Oui. Est-ce qu'on a aussi, à ce moment-là, une perception de la poésie qui est tragique, qui est
négative?
Au Québec,
il y a deux réactions. La peur de la poésie, c'est-à-dire, oh non, ça c'est trop poétique, comme si la poésie pouvait être trop.
Oui.
C'est étonnant. Mais ça, c'est vraiment une réaction. On a eu des choses qui sont, je veux dire, vraiment des classiques. Là. Entre nous, on fait des jokes, là, on a comme nos insides. Mais se faire dire, on aimerait ça vous avoir comme poète, mais pourriez-vous faire de la poésie moins triste?
OK.
Est-ce que, pouvez-vous moins mourir? Pouvez-vous être moins...
Oui.
Il y a comme des choses comme ça, ou être moins enceinte. Il y a comme des situations qui ont pas de sens. Et donc, ça, on rit maintenant, mais se faire demander régulièrement... Moi, j'ai refusé de faire des soirées de poésie le 14 février pour la Saint-Valentin, parce que on s'attendait à ce que je fasse de la poésie bonbon, oui. rose, chocolat.
Oui.
Puis, c'est pas mon style, c'est pas moi.
C'est un peu contradictoire. En fait, on voudrait que la poésie soit légère, bonbon, puis en même temps, on la réserve pour les adolescents à une période
mais
où
on l'enseigne
les gens
pas.
Sont...
On ne l'accueille pas, puis on ne l'enseigne pas. Puis oui. J'ai donné une conférence il y a 2 ans à des finissants en enseignement. On m'a fait venir d'ailleurs spécifiquement pour ça, justement parce que je travaille sur cet essai-là, de la mise en danger au Québec de la poésie, ou de l'absence plutôt, presque chronique de la poésie. En tout cas dans les institutions, là, j'entends primaire, secondaire, ça c'est sûr. Et puis ma conférence s'intitulait « La poésie, c'est plate ».
Ah, c'est formidable.
Oui, parce que c'était, c'était ce que ces étudiantes et étudiants opposaient à l'enseignante pour ne pas voir le module poésie. Puis c'était tous des finissants en enseignement.
C'est formidable.
Fait que c'était, ouais, c'est
alors,
ça.
On a un long chemin à faire.
Oui, oui.
Merci beaucoup, Sylvie Nicolas. C'est tout le
plaisir.
Temps qu'on avait. On va attendre cet essai-là avec beaucoup d'enthousiasme. Et votre dernier titre, c'est Les variations Borrows.
Oui.
Alors, on peut le trouver en librairie.
Ah oui, oui, il est encore là. Puis, oui, il est encore là.
Merci beaucoup, Sylvie.
Merci.
Alors, on va faire une pause musicale avec une pièce qui est aussi un classique... de la culture féministe, je dirais, L'homme qui a vu l'homme?
Bien sûr, quand j'ai commencé à faire des recherches sur des chansons féministes, je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas des tonnes, mais qu'il y en avait beaucoup signées Anne Sylvestre.
Oui.
Et puis, c'est très intéressant parce que ce sont toutes des belles œuvres empreintes justement de poésie, la poésie vivante.
Et on a choisi Une sorcière comme les autres?
Bien sûr.
On écoute ça.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte. Vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé, putain, et couverte de satin. Vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur, ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Aïcha, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Depuis ses débuts, le féminisme a mauvaise presse, surtout auprès de la gent masculine qui se sent parfois exclue ou même choquée par cette affirmation, disons, du féminin. De nombreux préjugés sont encore attachés au féminisme, même si, durant les dernières décennies, ce mouvement a éclaté en plusieurs directions. Alors, dans les prochaines minutes, je vais tenter de vous donner un très bref aperçu de son évolution récente. Je suis allée consulter des notes dans la revue Sciences humaines, un numéro d'avril 2010, qui s'intitule « L'ère du post-féminisme ». Alors d'abord, on va parler du féminisme traditionnel. Le mouvement féministe traditionnel s'est construit autour de la revendication de l'égalité des droits entre hommes et femmes. C'est vraiment à la base du féminisme traditionnel, c'est l'idée d'égalité. L'égalité juridique et l'égalité sociale dans les études et le travail. Cette revendication d'égalité des droits s'est souvent accompagnée d'une critique de l'idée d'inégalité naturelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui prétendaient que l'homme et la femme étaient par nature inégaux, c'est-à-dire que la femme n'avait pas tout à fait les mêmes capacités que les hommes, en particulier les capacités intellectuelles. L'autre idée clé est que la féminité est une construction de la société que résume la formule « on ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir. On va en parler tout à l'heure avec Huguette dans la deuxième partie. Il y a aussi une autre théorie de l'époque traditionnelle, c'est la théorie différentialiste. Ça, c'est né au départ de la contestation de la psychanalyse en tant que discipline patriarcale, et ça dénonce l'impérialisme masculin de la philosophie occidentale. C'est une approche qui a trouvé un écho assez très important parmi les représentantes américaines et ça a été appelé ici le « French Feminism ». Ensuite, dans les années 80, on a vu apparaître les « Gender Studies ». Ce sont des travaux sur des femmes qui s'articulent autour de la notion de genre. Le genre compris comme la construction sociale de la différence des sexes. Comment les représentations de chacun des sexes ont-elles participé de la domination masculine, des inégalités dans la société, de l'exclusion politique des femmes, etc. Aux États-Unis, puis en France, et dans de nombreux pays, on assiste à une explosion de travaux analysant les différences de traitement hommes-femmes dans tous les domaines des sciences humaines et sociales, que ce soit histoire, sociologie, anthropologie, psychologie, psychanalyse, économie, sciences politiques, géographie, ou encore travaux plurimultidisciplinaires. Alors, maintenant, le post-féminisme. Qu'est-ce que le post-féminisme? C'est plus qu'une notion clairement identifiée. Il s'agit d'un ensemble de postures qui se situent dans la continuité du féminisme en ce qu'elles expriment la liberté et l'autonomie des femmes. Donc, dès que les questions de liberté et d'autonomie de la femme, on est dans le post-féminisme. Sur le plan sociologique, le post-féminisme se manifeste à travers une série de postures assumées par de nouvelles générations de femmes, souvent des femmes cultivées et féminines. Elles revendiquent leur liberté à travers une palette de choix de vie. Par exemple, la top girl, c'est-à-dire des étudiantes qui sont parfaitement au courant des théories féministes et qui vont participer à des concours de beauté. Ben, ça, c'est du post-féminisme. Des jeunes célibataires qui s'inscrivent à des clubs de tricot. Des femmes qui choisissent d'être mères au foyer, même si elles sont instruites et qu'elles ont la possibilité de faire des études. Ou des musulmanes qui choisissent de porter le voile, invoquant simultanément leur liberté de conscience et le droit à disposer de son corps. Alors, sur le plan philosophique, on peut dire que le post-féministe a retenu deux idées principales. De Michel Foucault, on retient la critique de l'universalisme humain, qui serait en fait la figure cachée d'un pouvoir masculin, donc c'est une critique du patriarcat. Et on retient aussi de chez Jacques Derrida, on retient l'idée de déconstruction. Penser en termes de genre, masculin ou féminin, c'est encore rester dans le cadre d'une dichotomie. Alors, voilà pour l'historique du féminisme et du post-féminisme. On accueille maintenant une invitée qui nous vient de Catalogne. Merci. Bonjour, merci.
Bonjour.
Tu es venue au Québec pour parfaire ton art de l'accordéon.
Oui.
Et pourquoi précisément le Québec?
Parce que je veux apprendre la podorythmie québécoise et connaître la culture québécoise.
Bien, alors on va écouter. Tu vas nous jouer une pièce. Quelle pièce vas-tu nous jouer?
Donc, la chanson que je vais jouer s'appelle « Les Cobles del Peirot ». C'est une chanson traditionnelle catalane de la région où j'habite, la Vall de Boí, dans les Pyrénées catalanes. Et je ferai ma propre version parce que je pense que la tradition doit se transformer pour être vivante.
C'est bien, alors on t'écoute, merci.
Thank you.
C'était Merci Morena de Catalogne. Yo, see you later. Alors, on accueille maintenant Mylène Brunet, qui a étudié en sciences des religions. Voilà, Mylène est libraire et féministe. Elle s'intéresse à la littérature et aux sciences sociales. Elle nous parlera aujourd'hui de solidarité féminine. Et pour introduire son sujet, elle a choisi, comme vous l'avez peut-être remarqué, une pièce des Spice Girls. Bonjour, Mylène.
Bonjour, Catherine.
Alors, Mylène, d'abord, pourquoi tu as choisi une pièce d'un groupe qui manifestement fait partie de la grosse machine de l'industrie du divertissement?
Bon, d'abord, je ne l'ai pas choisie d'abord et avant tout pour ça, mais cette chanson-là, dans le fond, elle a été écrite par un groupe de femmes. Elle parle d'amitié aussi féminine. Il est répété à plusieurs reprises dans la chanson que le copain, l'élu de son cœur, doit d'abord et avant tout être accepté par ses amis et que c'est l'amitié, au fond, qui reste plus que les relations amoureuses. Puis c'était une manière d'introduire, dans le fond, mon sujet d'aujourd'hui, qui est un peu la représentation des femmes dans la culture pop. Donc, c'était une pièce un peu plus pop. Ça, c'est évident.
Une fois expliqué, donc, on comprend que ça convient
oui,
parfaitement.
Oui, c'est un peu inhabituel comme choix pour l'émission, mais bon, je trouvais que c'était une manière ludique aussi d'introduire le sujet. D'abord, Catherine, on en a discuté souvent ensemble, mais j'aimerais parler du Bechdel test. Donc, oui. Le Bechdel test, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un test qui vise un peu à tester le taux de représentation des femmes dans les films.
Dans le cinéma américain particulièrement?
Oui, exactement. Surtout dans les blockbusters, si on veut. Puis, dans le fond, ça a été créé par... en fait, ça a été créé sans le savoir, un peu à son insu, par la BDiste américaine Alison Bechdel, qui l'a introduit dans une BD en...
Et c'est pour ça que ça s'appelle le Bechdel test?
Oui, le Bechdel test, ça vient de son nom, dans le fond.
D'accord.
Là. Exactement. puis elle l'introduit dans un comic strip en 85 sans savoir que ça serait réutilisé en masse par la suite. Mm-hmm. Donc c'est dans la BD, il y a deux personnages féminins qui discutent de cinéma. Et il y en a une qui dit à sa copine, parce qu'elles sont lesbiennes, elle dit « Ben moi, je ne paie pas pour aller au cinéma à moins que le film remplisse trois conditions. » Et d'accord. C'est ces trois conditions-là qui vont devenir le Bechdel test. Les trois conditions, elles sont d'abord qu'il y ait au moins deux femmes dans le film, donc première des choses. Deuxième des choses, que ces deux femmes-là discutent ensemble. Et troisième des choses, d'autres choses que d'un homme. Donc, deux femmes qui discutent ensemble de quelque chose qui n'est pas directement lié à un homme. Et
est-ce qu'il y a eu des statistiques de fait sur les résultats au test?
Effectivement, parce qu'après ça, bon, elle s'attendait pas à ce que ce soit récupéré comme grille de lecture, mais il y a des gens qui se sont amusés à tester les films comme ça. Et non sans surprise, la majorité des films
ne passent pas le
test. Exactement. Par contre, c'est ça, la majorité des films ne passent pas le test. Bon, première des choses, deux femmes, c'est déjà surprenant. La plupart des films n'ont même pas deux femmes, deux personnages féminins. Ensuite, qui discutent ensemble, là aussi, il peut y avoir deux femmes, deux personnes de figuration, mais s'il n'y a pas de discussion entre les femmes, ou s'il y a deux femmes, mais qu'elles sont, toutes les deux femmes d'un homme ou personnages secondaires liés à un homme, bon, et puis qu'il n'y a pas de contact, ça aussi, ça peut être une des choses. Puis, troisièmement, la plupart des comédies romantiques, même si elles mettent, par exemple,
une femme dans le rôle principal,
oui,
qui a souvent une copine. Oui,
qui a souvent une copine, ben ça, la discussion
tourne autour des hommes.
Oui, c'est ça, que le film au complet peut se faire sans respecter le Bechdel test.
Est-ce qu'on a trouvé des explications? Est-ce qu'on a donné des...
Ben, je veux dire, je pense que je vais poursuivre, mais oui, effectivement, ce test-là, il y a quand même des failles, si on veut, dans le sens où c'est pas un test qui va déterminer si un film est sexiste ou non. Dans le sens où on peut très bien avoir un film où il y a un personnage féminin très fort, dont l'intrigue ou la vie n'est pas directement liée à celle d'un homme, ou etc. On peut voir aussi un autre cas de figure, par exemple... ça peut être un film, je sais pas, qui met en scène de façon dégradante des femmes qui pourraient discuter ensemble d'autres choses que des hommes, mais mm-hmm. qui serait quand même pas un film, qui pourrait être un film misogyne ou absolument pas progressiste ou féministe. Mm-hmm. Puis des films aussi, assez étonnamment, comme le film sur Harvey Milk, qui est un homosexuel militant, qui est un film progressiste, remplit pas les conditions. Donc d'accord. C'est évident que c'est apprendre avec des nuances.
Oui, c'est ça, une catégorie de films qui en partant...
Oui, puis je veux dire, faut revoir aussi le fait que le Bechdel test a été conçu, je veux dire, c'est deux personnages de comic strip qui discutent ensemble. Donc, ça n'avait pas de volonté au départ de dire... c'est juste surprenant quand même de voir que ces trois conditions toutes simples-là sont pas remplies, parce que mm-hmm. ça en dit beaucoup sur la représentation, tu sais.
Oui,
le taux de représentation
ça,
des femmes dans les films, puis non seulement la représentation, mais sous quelles conditions on met des femmes dans les films.
Est-ce que tu dirais que les gens ont des préjugés face à la solidarité féminine, comme quoi les femmes ne sont par définition pas solidaires entre elles?
Ben absolument, c'est dans la culture, je crois. Moi, j'ai entendu souvent, puis je suis certaine que nos auditeurs aussi, des choses comme un milieu de travail juste avec des femmes, c'est malsain parce que inévitablement, ça va tourner en zizanie, puis ça va parler les unes contre les autres. On présente souvent les femmes comme très compétitives entre elles, toujours rivales.
Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le cinéma américain se trouve à refléter des préjugés ou une certaine réalité?
Ben, en fait, je pense qu'il y a un conditionnement. C'est-à-dire que si on choisit de poser les femmes toujours comme rivales dans les films, ou lorsqu'elles parle ensemble, que ce soit vécu juste par rapport via leur rapport aux hommes, ben c'est certain que ça ces images-là deviennent prégnantes dans la culture. Puis
ça a un impact sur la propre perception des jeunes filles.
Oui, c'est ça, exactement. T'sais. Donc, je ne crois pas que dans les faits, ce soit comme ça. Là, c'est construit. Puis on peut se demander aussi pourquoi, dans le fond, on ne voit pas plus au cinéma de liens, de contacts, dans le fond, entre des personnages féminins. Non seulement qu'il n'y en ait pas plus que... Quand il y en a une, on est déjà content. Quand il y a un personnage fort, on est quand même... Mais pourquoi qu'on ne voit pas plus de contact? Il y a les films de Tarantino, par exemple, sont pleins de personnages féminins forts. Sauf que souvent, si je pense à Kill Bill, elles se battent entre elles.
Oui.
Et il y a souvent des discussions dans le film où elles se sont disputées l'amour de Bill, l'attention de Bill...
Mais il faut quand même dire que dans l'univers de Tarantino, pas mal tout le monde se tape joyeusement.
Oui, exactement. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que d'un côté, on a des personnages féminins forts, mais on les présente quand même...
comme des rivales.
Comme des rivales, et des rivales pourquoi... pour l'attention... bon, elles se vengent, le personnage principal se venge, mais quand même, elles sont... Il y a eu de la cisanie dans le groupe... pratiquement exclusivement féminin parce que à cause de Bill, tu sais, bon. Mais bref, c'est de voir aussi comment qu'on représente. Puis effectivement, la solidarité féminine ou les amitiés entre femmes, si elles sont présentes, manquent peut-être un peu de profondeur, comme dans les comédies romantiques, ou si les contacts sont là, c'est des contacts de rivalité ou des choses comme ça.
Mais à ce moment-là, est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir de l'éducation, de fait, concernant la solidarité?
Ben, en fait, de plus en plus, Hollywood tend à mettre davantage de personnages féminins forts et à mettre davantage de diversité, si on veut, dans les films par rapport aux personnages féminins. On en a eu des exemples dans les dernières années... parce qu'on voit que ça paye, hein. On voit quand même que ces films-là peuvent quand même être des blockbusters, là. Tu sais, aujourd'hui, le Bechdel test, je parle surtout de la culture populaire cinématographique, là. C'est sûr que les films d'auteur sont moins sujets à échouer quand même le Bechdel test. Puis comme je dis, c'est pas un signe qu'un film est nécessairement misogyne ou sexiste. Mm-hmm. Mais c'est ça. Dans les dernières années, Hollywood, on voit qu'il y a un effet un effort qui est fait dans ce sens-là. Et un des exemples que je peux peut-être nommer, c'est deux films pour la famille, pour la jeunesse, où c'est la solidarité féminine, puis les femmes qui save the day, qui sauvent le jour, si on veut. Je pense à Maléfique, qui est, entre autres...
C'est un film pour enfants, à ce moment-là?
Oui, familial, qui est un peu comme une réinterprétation, que je dirais carrément féministe, du conte de la Belle au bois dormant.
Oui. Dans le domaine du film pour enfants, il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait sur l'image. Il y a beaucoup de films où on a des personnages féminins principaux.
Oui, exactement, puis de plus en plus. Puis un autre film que je peux nommer, puis... Je vais vous parler de la réaction qu'il y a eu par rapport à ça aux États-Unis, parce que je pense que c'est très éclairant justement sur pourquoi exactement on ne montre pas plus de solidarité entre femmes ou entre filles dans les films. C'est Frozen. C'est un film dans lequel, une des sœurs est en danger, puis c'est les sœurs qui se sauvent entre elles, et le méchant est masculin, et l'allié, le sidekick, le personnage secondaire qui va aider la quête de l'héroïne, est masculin. Alors, contrairement, ça fait un peu changement, où c'est pas le prince charmant s'avère, en fait, pas être un prince charmant, puis bon... Le personnage secondaire est un homme, puis ce sont les sœurs entre elles qui vont s'entraider, se sauver, elles-mêmes. Et aux États-Unis, on a parlé du Frozen Effect, dans le fond, parce que ça témoigne quand même d'une certaine émancipation, puis c'est fait par Disney. On sait que Disney, même s'il y avait des héroïnes féminines comme personnage principal, c'est loin d'être des films nécessairement féministes. Là. Ils sont toujours sauvés par des hommes, ou en tout cas,
Donc, c'est plutôt traditionnel en général.
Et bon, il y a quand même tout un mouvement aux États-Unis. Puis bon, les chansons du film sont chantées. Tu sais, ça a été écouté
donc,
par
donc
les gens.
Donc, l'effet Frozen, c'est que ça a été un effet de belle réception.
Oui, puis positif, là. Puis, tu sais, ça a accroché, là. Ça n'a pas moins vendu parce que c'est ce qu'on mettait en scène. Et bon, le réseau Fox News, qui est un réseau de droite absolument...
Très conservateur.
Très conservateur, j'allais dire très horrible aussi. Dans une émission à la télé, dont le présentateur interview Penny Nance, qui serait le CEO de l'Association des femmes concernées pour l'Amérique. Je le traduis, là, une traduction libre.
On va conclure avec ça, il nous reste à peine une minute.
Juste le dire très, très rapidement, c'est que eux, ils trouvent dangereux, menaçant ce film-là, parce que ça remet en cause le rôle de l'homme. Et on va jusqu'à dire... on veut que nos garçons sachent qu'ils sont essentiels. On veut élever des héros. On veut élever de vrais hommes qui vont rester avec leur famille, être de bons pères, être de bons pourvoyeurs et de bons maris. Donc,
c'est savoureux, ça.
Oui, c'est ça. Donc, l'idée que les femmes puissent s'autosuffire fait complètement s'écrouler l'idée comme de quoi la famille nucléaire serait la base de la société serait menacée.
Donc, on en est encore là.
Oui, avec des films jeunesse comme Frozen, l'Amérique va s'écrouler demain matin.
Donc, merci beaucoup,
ben, en tout cas, Mylène. Ça me fait plaisir.
C'est très, très éclairant. On va réfléchir là-dessus.
Oui, on va dormir là-dessus un petit peu, je pense. À bientôt.
Merci. Il m'a semblé qu'on ne pouvait pas faire une émission sur les femmes sans parler de Simone de Beauvoir, qui, avec son livre « Le deuxième sexe », publié en 1949, a offert une réflexion théorique sur la condition des femmes. Et grâce à ça, elle a donné une reconnaissance intellectuelle au mouvement d'émancipation de la femme. Alors, pour introduire le sujet, « L'homme qui a vu l'homme » a choisi une pièce d'époque, une pièce de la même époque que de Simone de Beauvoir. C'est une pièce de Jean Ferrat.
Oui, tout à fait. C'est une pièce de M. Jean Ferrat. On avait décidé que c'était le seul homme qu'on entendrait ce soir dans nos choix musicaux.
À part toi?
Dans les choix musicaux.
Oui, oui.
Je me sens pas comme un choix musical moi-même. Alors, c'est une très, très belle chanson qui s'appelle « La femme et l'avenir de l'homme ». C'est inspiré du grand poète Aragon.
Merci.
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison. L'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison. D'autres amours en son royaume remettent à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre ensemble, écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée. Tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
C'est Huguette Dugas qui a accepté de nous parler de Simone de Beauvoir aujourd'hui. Huguette n'est pas une spécialiste de la question, mais elle s'intéresse à la personne et à la vie surtout de Simone de Beauvoir depuis bien longtemps. Alors, je lui ai donc demandé de venir nous en parler un petit peu ce soir de cette féministe incontournable. Bonjour Huguette.
Bonjour Catherine.
Huguette, merci beaucoup d'abord d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu arrives de voyage et que tu débarques un peu à la hâte.
Oui, ça me fait plaisir, mais disons que j'avais fait mes lectures un petit peu avant de partir. Donc, j'ai fait un peu une petite synthèse là, au retour.
Le livre « Le deuxième sexe » a été publié en 1949.
C'est bien ça.
Mais c'est dans les années 60 qu'il va devenir un classique du mouvement féministe, une référence fondatrice des gender studies américaines. Et ça a été immortalisé, ce livre-là, par la célèbre phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Alors d'abord, cette fameuse phrase, qu'est-ce que ça signifie?
Bon, c'est sûr qu'au premier abord, là, cette phrase-là, ça semble un peu bizarre. « On ne naît pas femme ». Parce que c'est comme évident que l'enfant qui vient au monde est soit une fille ou un garçon. Alors, on peut penser que Simone de Beauvoir ne faisait pas référence à la biologie de la femme en disant cette phrase-là. Alors, elle fait plutôt référence... c'est-à-dire que pour comprendre la phrase, il faut le placer dans le contexte du livre. Et cette phrase-là se trouve, introduit la partie du livre qui traite de la formation de la petite fille et de la jeune fille.
D'accord.
Donc, il est plutôt question de la place de la femme dans la société, de sa fonction en tant que femme. Alors, c'est ça qui va être question. Donc, on ne naît pas femme, on le devient. Ça veut dire que la femme n'est pas... conditionnée ou déterminée par sa biologie ou sa psychologie ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est qu'elle est plutôt un produit de la civilisation. Elle est construite par la civilisation.
Et par l'éducation.
Et par l'éducation, donc par l'histoire et par la société dans laquelle elle vit.
C'est d'accord.
Ça. Donc finalement, c'est comme ça que je l'ai compris.
Et comment ça a été reçu en 1949?
Évidemment, c'est pas seulement la phrase là, qui a suscité la controverse, mais l'ensemble du livre. Il faut dire que c'est un livre qui a plus de 1000 pages, alors il traite la condition féminine sur tous les points de vue. Et finalement, lorsque le livre a sorti, dans la première semaine, il s'en est vendu 22 000 exemplaires déjà. Donc,
ce qui est quand même pas mal, je pense.
C'est beaucoup, oui. Puis ça fait connaître beaucoup Simone de Beauvoir à ce moment-là.
Oui.
Et ça a suscité toutes sortes de réactions. Dans les journaux, il y a eu des pour, il y a eu des contre. François Mauriac a même écrit aux collaborateurs des Temps modernes, la revue qui a été fondée par Sartre et Beauvoir.
Par Sartre, oui.
En disant, par les deux.
La revue
était fondée par les deux. En disant, maintenant, je connais tout du vagin de votre patronne.
Aïe, c'est raide.
C'était très raide. Même les amis ont réagi. On dit qu'un de ses amis, il a cessé de lire le livre, l'a lancé au bout de la pièce.
Donc, ça a choqué, si je comprends bien.
Ça a choqué beaucoup. Donc, ça a suscité beaucoup de réactions, mais il y a eu également des gens qui ont défendu le livre, donc il y a eu des pour et des contre, puis dans la force des choses, là, une partie de ses mémoires, à un moment donné, elle a fait le bilan, puis elle dit que finalement, c'est un livre qui a aidé les femmes à prendre conscience d'elles-mêmes. C'est sûr que même les femmes ont réagi beaucoup parce qu'elles se sentaient contestées, pas comprises, et ça les effrayait.
Parce que ce que je comprends en t'écoutant, c'est que les hommes ont été très choqués, surtout les intellectuels, oui. Mais est-ce que les femmes aussi ont été choquées?
Oui, les
par
femmes
ce
aussi
livre-là?
Ont été choquées parce que ça dérangeait leur vision d'elles-mêmes aussi.
Oui.
Donc, elles se sentaient contestées et ça les effrayait, cette vision-là aussi.
Oui,
mais par contre, il y en a d'autres qui lui ont dit qu'effectivement, ça les aidait à prendre conscience d'elles-mêmes, ça les a évités de se mépriser parce qu'elles ont compris que leur situation n'était pas due au fait parce qu'elles avaient une infériorité quelconque, mais mm-hmm. c'était dû au contexte finalement.
Est-ce que cette approche-là qui vise donc la construction sociale, l'éducation, est-ce que ça a un lien avec la pensée existentialiste qu'on retrouve chez Sartre?
Oui, tout à fait, parce que d'ailleurs, le deuxième siècle, là, c'est vraiment une œuvre existentialiste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'existentialisme? Bien, c'est une philosophie, puis Sartre l'a défini dans une conférence qu'il a donnée en 1945 à Paris. Et puis moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'est une philosophie qui étudie l'homme dans son existence puis dans ses engagements dans le monde. Donc, ça veut dire que l'homme se définit par ses actes, puis il va être tel qu'il se sera fait. Ça fait que la vie humaine n'est pas déterminée d'avance, elle se crée au fur et à mesure de nos libres décisions volontaires. Puis, ce qui place l'homme dans son existence en possession de ce qu'il est, puis ça fait reposer sur lui la responsabilité de son existence aussi. Donc, c'est une philosophie de la liberté et de la responsabilité.
D'accord.
Donc, dans le deuxième siècle, Simone de Beauvoir, elle, a constaté que la femme, la situation de la femme, c'est que, c'est-à-dire que l'homme se définit par rapport à lui-même en tant que sujet, alors que la femme se définit par rapport à l'homme.
D'accord.
Donc, ça crée une opposition qui était là, il semble-t-il, dès l'origine. Puis si ça n'a pas changé, bien, elle dit que c'est parce que la femme ne s'est pas opposée
à ça.
Puis pourquoi elle ne s'est pas opposée aussi? Bien, parce que peut-être qu'elle n'avait pas les moyens de le faire, entre autres au point de vue économique. Et aussi, dans l'être humain, il y a aussi un désir d'autonomie, d'indépendance, mais il y a aussi un désir d'abandonner sa liberté pour finalement...
Avoir une certaine direction, des fois, c'est
oui,
reposant.
Oui, c'est plus facile pour contrer l'angoisse existentielle puis assumer sa responsabilité de vie, ben ça demande un peu de guts, comme on dit.
Oui.
C'est ça.
Et comment, Simone de Beauvoir, ce serait intéressant qu'on parle un petit peu de la femme comme telle. Comment cette femme-là vivait à son époque? Est-ce qu'elle vivait comme les autres femmes de son temps? Est-ce qu'elle avait une vie différente?
Oui, parce que à l'époque, là, on est en 1949, donc la guerre vient de se terminer et puis la société est en changement, mais on débute un changement. Ça fait que la société est encore très traditionnelle. La plupart des femmes sont mariées ou aspirent à l'être. Alors, quand on demande aux femmes qu'est-ce qu'elles voient comme avenir, bien, elles se voient comme épouse et mère.
Voilà.
Alors, Simone de Beauvoir, elle ne citait pas du tout ça. Elle est issue d'une famille bourgeoise et son père a eu un revers de fortune et il était conscient que la façon que ses filles pourraient s'en tirer dans la vie, c'est de faire des études. Alors, il les a poussées dans ce sens-là. Alors, Simone, c'était une personne instruite qui a fait des études, elle a fait une carrière, elle a enseigné, ensuite elle a été écrivaine. Donc, et puis elle vivait très librement aussi.
Oui, c'est ça, dans sa vie aussi de femme, d'amante, dans sa vie de couple avec Sartre, c'était pas très conventionnel non plus, je pense.
Non, pas du tout. C'est que dans le fond, c'était une relation qui était basée sur la liberté, sur l'autonomie. Puis d'ailleurs, entre les deux, ils avaient conclu un pacte, c'est-à-dire que leur amour sera un amour nécessaire, mais qu'ils se permettraient aussi de vivre des amours contingentes ou parallèles, si on veut, des amours secondaires. Et puis, dans ce pacte-là aussi, il y avait le fait que non seulement ils ne se mentiraient pas, mais ils se diraient tout, ils ne se cacheraient rien. Alors, c'était quand même un bon défi à relever.
Elle est allée très loin dans ses expérimentations aussi. Hein? On a dit qu'elle avait eu des relations homosexuelles, qu'elle avait eu plusieurs amants de différents âges. Elle vivait très, très librement.
Oui, elle vivait très, très librement, comme Sartre aussi, finalement. Et puis, oui, elle a eu des relations avec des hommes et avec des femmes aussi. Et puis, finalement, ça correspondait au fait de vivre sa vie, d'assumer toute sa condition féminine. Et dans ses relations homosexuelles, elle en parle dans ses mémoires et dans les lettres à Sartre, mais c'est présenté d'une façon très discrète. Là. C'est pas comme dans la littérature d'aujourd'hui où on étale tout, là. Mais on comprend très bien qu'il y a eu des liaisons. Mais j'ai pas trouvé que c'est ce qui dominait dans ses relations amoureuses.
Là. Est-ce qu'on peut dire un petit mot, parce qu'il nous reste vraiment 30 secondes, sur sa liaison avec son amant américain?
Nelson Algren, Bien, cet amant-là, Nelson Algren, elle l'a connu lorsqu'elle avait été invitée aux États-Unis par plusieurs universités à faire une tournée de conférences. Et lorsqu'ils se sont connus, ça a été le coup de foudre et ça a été pour tous les deux là, la grande passion de leur vie. Alors, mais c'était un amour impossible, trop de différence et finalement...
Elle est restée fidèle à Sartre.
Elle est restée fidèle à Sartre d'une certaine façon, mais à Nelson aussi parce qu'elle est enterrée avec la bague que Nelson lui avait donnée.
C'est beau. Hey, c'est tout le temps qu'on avait. Oui. Merci beaucoup, Huguette. C'est très gentil d'avoir accepté mon invitation ce soir.
C'est un plaisir.
Alors, on va terminer avec une dernière invitée. Et je réfléchis à voix haute. Il me semble qu'une partie des réflexions féministes peut mener à une certaine négation du corps. Je m'explique. Pour Simone de Beauvoir, les femmes ne peuvent gagner leur émancipation qu'en ayant accès aux études et à l'indépendance économique. Aussi, on n'en a pas parlé avec Huguette, mais Simone de Beauvoir décidera de ne pas enfanter. Pour elle, la maternité constitue une aliénation, un frein à la liberté d'exister. Les idées de Beauvoir ont été très populaires aux États-Unis, où on a vu naître le mouvement queer avec Judith Butler. Pour Beauvoir, comme on disait, le genre est une construction sociale. On ne naît pas femme, on le devient. Judith Butler ajouterait « ou pas », parce qu'elle, elle franchit un pas de plus en émettant l'idée que c'est aussi le cas du sexe. La théorie queer conteste la fixité des normes sexuelles, homme-femme, hétéro-homo. Judith Butler va jusqu'à dire que la différence masculin-féminin, c'est seulement le produit d'un langage performatif qui crée des garçons et des filles uniquement par la force des mots. Donc, on peut aller très loin dans cette opposition à la réalité du corps. Ma prochaine invitée, qui se situe dans un autre camp, son approche s'inscrit dans ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Elle va nous expliquer un petit peu tout à l'heure de quoi il s'agit. Et ça va nous mener vers un autre type de féministe que celui de Beauvoir ou de Butler. Un féministe qui, loin de nier le corps, tente plutôt de l'assumer pleinement. Et pour introduire cette révolutionnaire d'un autre type, on a choisi la chanson d'une rebelle célèbre. Il s'agit de Brigitte Fontaine, « L'homme qui a vu l'homme ».
Et oui, la chanson s'intitule « Conne », mais la madame Brigitte et notre invitée ne le sont pas, bien sûr.
Non, et puis vous allez voir, c'est une chanson
assez crue.
Assez crue, oreille sensible, s'abstenir.
Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con. J'ai raté ma vie, j'ai raté mon évolution spirituelle, je n'ai pas appartenu à un ordre initiatique. Conne, je suis passée à côté de l'amour. Il s'est présenté à moi avec sa Mercedes rose bonbon et sa poitrine nue et dorée. Je l'ai laissé sur le bord de la route et je suis montée dans une dèche fourvoyée où il y avait un chien qui puait. We'll be right back.
Laurence Simard est doctorante, féministe, mère et blogueuse à ses heures. Bonjour Laurence.
Bonjour Catherine.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Ah, ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir invitée.
Tout à l'heure, j'ai tenté de mettre en perspective les différentes voies qui ont exploré le féminisme là, depuis le début des années 60. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend aujourd'hui par féminisme?
Ben, en fait, non. Et la raison pour ça, c'est que il y a énormément de versions divergentes sur ce qu'est le féminisme. Et moi, en fait, je me refuse. Je me refuse complètement de faire la police du féminisme, là, de dire telle forme est valable et telle forme ne l'est pas.
Oui.
Pour moi, le féminisme, ce que c'est vraiment de mettre en évidence et de combattre des structures sociales, politiques et culturelles d'oppression qui marginalisent les femmes. Et c'est très, très large, en fait. Ça ratisse très large, cette définition-là. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que ça va bien au-delà des rapport direct entre hommes et femmes. C'est-à-dire que les structures sociales qui marginalisent les femmes, bon, oui, évidemment, il y a le patriarcat, mais tu sais, le patriarcat est lié de façon inextricable avec le capitalisme aussi, le racisme, l'âgisme, le capacitisme, l'hétérosexisme, etc. Donc, tu sais, moi, je suis vraiment une fervente fan de la phrase de Bell Hooks, qui est une féministe radicale du mouvement des féministes noires américains, qui disait « Feminism is for everybody ». T'sais, le féminisme est pour tout le monde.
C'est une idéologie de la ségrégation, de l'antiségrégation, en fait, peu importe la base de la ségrégation.
Bien, en fait, oui, c'est surtout de remettre en question, d'essayer de vraiment identifier, remettre en question toute forme de marginalisation, et ça, ben, dans le fond, je vais en parler tout le long du temps que tu vas m'accorder, mais ça présuppose remettre en question l'idée de norme.
Oui,
c'est
ça.
Parce que la marge, dans le fond, elle existe par rapport à une norme. Et moi, mon travail, toute ma réflexion, dans le fond, vient à miner cette idée-là binaire de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est fonctionnel et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Donc, c'est là-dedans que s'inscrit ta réflexion sur le féminisme.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait.
Je sais aussi que tu t'inscris dans ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité?
Bien, l'intersectionnalité, en fait, c'est en lien un peu avec le large éventail du féminisme dont je viens de parler. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça reconnaît que les femmes ont une diversité de vécu qui est infinie. D'ailleurs, tu m'entendras jamais dire « la femme ». Moi, je parle toujours des femmes. Et tu sais, de plus en plus, c'est une prise de conscience qui se fait dans les divers mouvements féministes. Les gens, on parle des femmes parce que ça n'existe pas. L'idée de « une femme » n'existe pas.
Ça devient une abstraction.
Ben, en fait, l'idée de « la femme » aussi, quand on dit « la femme », ça renforce cette idée-là de norme, encore une fois, parce que ça dit…
Il y aurait comme un idéal qui s'appellerait la femme. Il faudrait que toutes les femmes s'alignent sur cet idéal-là.
Ça, ou encore, l'idée d'être femme, puis ça rejoint beaucoup Beauvoir, en fait, l'idée d'être femme, c'est une défaillance à ne pas être homme. Donc, okay. Tu es la femme parce que tu n'es pas homme, tu sais. Donc, c'est puis d'une façon ou d'une autre, c'est très statique, puis c'est très essentialiste, on s'entend, que ça soit, qu'on le voit comme quelque chose à accepter, à célébrer, comme, mm-hmm. Mettons, certaines écoféministes vont le proposer, ou qu'on le voit comme quelque chose à combattre, comme Simone de Beauvoir, mettons, et beaucoup des gens après elle l'ont proposé. Ben, peu importe comment on le voit, c'est très essentialiste.
Donc, finalement, ça serait de sortir des catégories de genre.
Ben, en fait, non, parce que moi, c'est drôle parce que tantôt tu parlais de post-féminisme, puis
oui.
Moi, je me considère pas du tout comme une post-féministe, dans le sens que le post-féminisme ne voit plus le genre.
C'est ça, il efface complètement cette dichotomie-là ou cette différenciation-là entre les êtres humains. Ils disent on est tous différents, on est tous des êtres humains et on va pas s'emprisonner dans des catégories de genre comme les hommes, les femmes.
Ben c'est pas... je veux dire, il y a des post-féministes qui voient le genre encore, mais qui le considèrent plus comme une dimension fructueuse dans l'analyse sociale. C'est plutôt ça.
D'accord.
Et, tu sais, c'est dans la foulée, tu sais, du postmodernisme, de l'éclatement des identités,
oui, oui.
Et tout ça.
Oui.
Et, en fait, moi, je me suis déjà posé la question si le postmodernisme, le postféminisme était inévitablement néolibéral.
Ah bon? C'est intéressant comme question. Je ne m'étais jamais posé la question.
Oui, mais on pourra en parler une autre fois.
Oui.
C'est un petit peu en sujet, là. Mais c'est ça. Moi, je considère que le genre est encore une dimension très fructueuse d'analyse et de revendication. Par contre, ça doit inévitablement passer par la reconnaissance de la diversité des véhicules, comme je le disais, qui sont, en fait, nécessairement contextualisées, liées à d'autres structures de pression sociale, comme par exemple le fait d'être racisé, le fait d'avoir des capacités différentes, physiques, mentales, émotives, la sexualité, l'âge, etc.
C'est là qu'on s'inscrit dans l'intersectionnalité à ce moment-là, c'est qu'on prend toutes les facettes de l'être humain. Puis...
C'est ça. Puis c'est comme, moi je le vois comme une constellation en fait. Parce que je pense que le danger avec l'intersectionnalité, c'est de voir ça comme une addition. T'sais, c'est-à-dire,
ah oui.
Je deviens de plus en plus différente parce que là, je ne suis pas juste femme, mais en plus, je suis femme noire, puis en plus, j'ai des enfants. Puis en plus,
oui.
T'sais, un plus
on
un,
combine
plus un,
des
plus
rôles.
Un, plus un.
Le rôle de mère, le rôle de conjointe, le rôle de travailleuse, le rôle de...
Mais c'est parce que quand on fait ça, quand on commence à additionner, si on veut, les différences, ben encore là, on renforce la logique de norme. T'sais, on renforce la logique de... voilà, tu sais, la différence femme... de la norme masculine,
oui.
Plus la différence noire de la norme blanche, plus la différence, oui. Plus âgée. Donc, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est important de ne pas tomber dans ce piège-là. Là.
Je fais peut-être un saut dans ton plan de présentation, mais c'est parce que ce que tu viens de me dire, c'est que ça me fait penser à la question de l'universalisme.
Tout à fait, tout à fait.
Ça remet en question la notion de l'universalisme humain.
Oui, 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 tout à fait. En fait, ça remet en question la base même de notre idéal libéral. Tu sais, la façon dont on perçoit l'univers social, dont on perçoit le public, la participation publique, c'est vraiment basé sur cette idée-là que nous pouvons être des individus qui sont neutres, qui sont rationnels, qui sont autonomes, qui sont indépendants. Et ça, ben, ça remonte à Descartes, là, la séparation du
corps-esprit.
Mais en fait, c'est pas juste le corps-esprit, c'est la conscience et le matériel, la nature, incluant le corps. T'sais.
D'accord.
Donc moi, c'est ça. Moi, en fait, je dis moi, c'est pas moi là. C'est pas original pantoute. Là, il y a beaucoup beaucoup de féministes avant moi qui ont fait cette réflexion là. Mais ça a été remis en question énormément par beaucoup de féministes, par aussi toutes les critical race studies et tu sais les parce que ça justement ça présuppose que la norme, qu'il existe une neutralité, qu'il existe
oui,
un point
ça.
De vue.
C'est ça. À partir du moment où on tombe dans une définition abstraite de l'être humain, c'est-à-dire théorique de l'être humain,
mm-hmm.
Bien, on ne tient plus compte d'une réalité concrète, en fait.
Bien, non seulement on ne tient plus compte d'une réalité concrète, mais on se permet d'oublier que notre neutralité, elle est située. tu sais, l'idée vraiment impérialiste du Lord of all I can see, tu sais, le fait que moi, je peux...
Devenir tout ce que je veux.
Ben non, en fait, c'est pas je peux devenir tout ce que je veux, c'est je peux voir d'où je suis, je vois tout, parce que d'où je suis, c'est nulle part. Tu sais, d'où je suis en haut, tu sais, moi, je ne suis située nulle part. Fait que je me permets, moi, de me séparer des contingences de l'existence qui font que ma vie est encombrée, qui font que ma vision est partielle, en fait.
Oui.
C'est que je me fais à croire que ma vision n'est pas partielle. C'est ça l'idée du sujet. En fait, c'est ça la faille fondamentale du sujet universel. T'sais.
Alors, revenons donc au corps. Donc, de quelle manière cette relation-là au corps s'inscrit dans cette analyse-là du féminisme?
Bien, en fait, pour moi, je vois le corps est vraiment central dans mon travail, est vraiment central dans mon analyse. D'une part, parce que en tant que féministe, les féministes se sont de tout temps coltaillés avec l'idée de corps. Là, on l'a vu avec la présentation sur Simone plus tôt. Mais c'est que, bon, d'une part, l'oppression passe. Des femmes passent par le contrôle du corps, mais aussi, c'est ça, c'est encore une fois la décision, ben c'est quoi une femme, tu sais, c'est quoi une femme? Mais en fait, c'est aussi, moi, ce que je trouve fructueux dans l'idée du rapport au corps, c'est que l'expérience du vécu se fait en relation avec le corps. Qui nous sommes est socialement codé à travers notre corps.
Oui.
Puis, c'est à travers ce corps-là qu'on a accès ou non à certains lieux, à certains processus, à certains privilèges. Donc, le corps est fondamental à l'agencéité. Ce que je veux dire par l'agencéité, c'est notre capacité d'agir, notre capacité d'influencer notre destin, notre capacité de transformer le monde. Tu sais, ce que, mettons, Sartre Beauvoir appelait la transcendance, là, tu sais. Donc, puis, paradoxalement, le corps est fondamental là-dedans. Et donc, moi... Dans mon avis, je situe beaucoup l'agencéité au niveau d'un corps qui est en interrelation avec l'environnement. C'est dans ce contact-là que se situe l'individualité, finalement. Qu'est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on peut faire.
Puis notre perception, on perçoit à partir, donc, effectivement, de soi.
Mm. Puis ça, c'est ça. Bien, évidemment, c'est ça. Comme on disait tantôt, ça remet en question radicalement l'idée que on est des individus qui sont self-contained, c'est-à-dire contenus, qui sont imperméables, c'est-à-dire.
Simone de Beauvoir voyait l'autonomie de la femme à travers l'accès au marché du travail, l'indépendance économique. Mm-hmm. Quand on, je pense que toi, tu vois ça d'un tout autre œil. Parce que quand on est mère, quand on a des enfants, l'accès au marché du travail, ça devient toujours une question de négociation, puis de...
Mais en même temps, oui, tu sais, en fait, je pense que l'accès au travail, voyons, la conciliation du travail pour bien des mères, en fait, c'est quelque chose de très compliqué.
Oui, c'est ça, c'est on est toujours en négociation, on est toujours en confrontation, on est toujours à essayer de faire des concessions, en fait, c'est une vie de concession.
Oui, tout à fait, mais en même temps, c'est très difficile à abandonner, étant donné... l'impératif normatif qu'on a de travailler. C'est surtout maintenant, surtout dans ces temps de néolibéralisme-là, où est-ce que vraiment notre valeur en tant que personne qui participe à l'univers social passe beaucoup par notre capacité de production. Est-ce qu'on est employé? Est-ce qu'on a un bon salaire? Puis c'est ça qui nous permet, dans le fond, de participer activement, d'être entendu, puis d'avoir un certain poids, autant au niveau politique, social, culturel, tu sais.
Mm-hmm. Mais ça fait que le soin aux enfants dans ce système-là est dévalorisé.
Oui, ben le soin aux enfants est tout à fait dévalorisé parce que c'est encore une fois c'est une contingence. Tu sais, c'est une contingence qui alourdit ce sujet, qui alourdit l'espèce de sujet universel dans le sens que c'est comme crier que l'empereur est tout nu. Tu sais, c'est-à-dire cette idée-là de sujet autonome, indépendant, qui se situe au niveau de la conscience, qui est la personne rationnelle qui peut être libre. T'sais, c'est ça qu'on disait tantôt aussi, l'accès à la liberté, selon Beauvoir. Mais c'est ça, c'est la personne qui peut être libre, c'est cette personne-là qui est autonome. Et cette idée-là d'autonomie, selon moi, ce mythe-là d'autonomie repose justement sur un déni des contingences, ou un déni du fait que cette norme-là ou cet idéal-là n'existe que parce qu'il fait violence à une réalité qui est inévitable, qui est que, je veux dire, les gens ne sont pas... premièrement, les gens ne sont pas tous des hommes blancs. Et deuxièmement, c'est que tout le monde, je veux dire, même les gens qui fitent le mieux avec ce modèle-là ont des besoins à un moment ou l'autre de leur vie, tu sais. Tout le monde est en interrelation. Dans le fond, tout le monde passe par un corps en interrelation avec son environnement, tu sais. Donc, c'est ça, le fait d'avoir le soin d'enfant, ça rappelle ça.
Oui.
Et c'est comme j'aime ça, cette image-là du petit gars qui crie « L'empereur est tout nu », tu sais, parce que c'est ça, c'est une vérité qu'on essaie de tasser en dessous du tapis, mais qu'en fait, qui nous crie d'en face. Tu sais, c'est comme tout le monde se ment collectivement à dire que c'est pas vrai, alors que finalement, bien sûr que ça l'est. Tu sais.
Alors, comment on fait socialement pour intégrer cette vision-là?
Ben moi, en fait, j'ai pas la réponse. J'ai pas la solution.
Oui, parce qu'en fait, le monde dans lequel on vit permet pas ça.
Non, ben c'est ça. Mais tu sais, moi, mon travail, dans le fond, de recherche, ce que je fais, c'est que j'identifie justement certaines contradictions qui émergent du fait d'essayer de réconcilier le fait d'avoir des individus, d'autres personnes à charge, d'être encombré d'interrelations, si on veut.
Et, c'est bien dit, être encombré d'interrelations.
Ben c'est ça, tu sais. Puis en plus, en tout cas, c'est drôle.
On est comme attaché.
Mais oui, tu sais. Puis ça me fait, c'est une parenthèse, mais tu sais, l'expression lourdeur, on dit beaucoup, ouais, c'est lourd, tu sais. Puis c'est très négatif de dire que quelqu'un est lourd ou quelque chose, ouais, est lourd, tu sais. Fait que c'est ça, l'encombrement est vraiment en au bout.
Oui, on voit pas la relation avec les autres comme une addition, mais comme un poids, en fait.
Ben oui, comme un poids, évidemment, parce que c'est vrai que ça nous ralentit. Tu sais, ça nous empêche d'être cette liberté autonome-là qui peut être tout ce qu'elle peut être, dans le fond, tu sais, individuellement. Et de façon, tu sais, auto-contenue. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, j'identifie un peu les mailles de ces contradictions-là. Dans le fond, c'est ça que je fais dans mon travail.
Et est-ce qu'on pourrait en énumérer, donner quelques exemples, de contradictions qui existent entre la manière dont la société est construite et la nécessité de ce rapport au corps qu'on doit préserver?
La manière dont la société est construite ou... Mais en fait, tu sais, ce que tu me demandais par rapport au care, le soutien, oui, de l'existence, oui, et au travail, tu sais, ça en est des façons d'illustrer, si on veut, les tensions entre le rapport au corps et mettons, un modèle social, politique, libéral, là, et néolibéral. Ben c'est ça, tu sais, comme je le disais tantôt, l'idée du sujet universel, le rapport au travail est constitué autour de cet idéal-là de sujet universel. C'est ce sujet-là qu'on veut, dans le fond, dans les lieux de travail. Tu sais, on veut pas la personne qui a des enfants, puis que tu sais, qui a des maladies, des ça, qui est encombrée d'araignées au plafond et de petits qui crient, là. Tu sais, c'est vraiment la personne qui est fonctionnelle, qui est autonome, qui est indépendante, qu'on a besoin. Même, tu sais, dans les travaux d'équipe, là, tu sais, on veut quand même cette partie-là de l'individualité qui fonctionne bien de façon, justement, non encombrée. Et on oublie dans ce temps-là que pour que cette personne-là existe, en fait, il y a toute une partie de la société qui est immobilisée à reproduire cette personne-là. Oui. C'est l'idée de reproduction sociale, oui, qui est encore là. J'invente pas à l'une, là. Les féministes marxistes ont dit ça bien avant moi, là. Mais
c'est que la nécessité du soin à l'autre et de prendre soin des autres demeure incontournable, même si le marché du travail exige que ça existe, qu'on fasse comme si ça n'existait pas.
Ben c'est ça. C'est le tissu de base de, oui, l'existence. C'est inévitable. Donc, pour que les gens puissent accéder à cette espèce d'autonomie-là artificielle, si on veut. Ça prend des gens à la maison pour torcher, pour s'occuper des petits, pour faire la bouffe, tu sais, s'assurer que papa rentre du travail et que son journal est prêt à être déplié, là, et que son beau fauteuil soit préparé.
Et à partir du moment où les femmes ont décidé de cesser de s'occuper de ça pour aller sur le marché du travail, qu'est-ce qui se passe?
Bien, en fait, les femmes ont tu sais, encore là, les femmes, c'est certaines femmes ont décidé de... Certaines femmes, non seulement
merci
ont décidé,
de me reprendre, oui.
mais surtout ont eu les capacités de le faire. Tu sais, puis ça, c'est beaucoup qu'on voit dans les revendications des féministes plus libérales, tu sais, qui tendent à accéder à la fonctionnalité, justement, du sujet qui est autonome, qui est indépendant. Mais ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que le travail de soutien à l'existence est transféré vers d'autres femmes qui sont plus pauvres, qui sont... souvent racisés, qui sont souvent en statut d'immigration précaire, comme avec nos beaux programmes d'aide à domicile, que, ben c'est beau, tu viens travailler, complètement à la merci d'un ou une employeur, et après ça, tu retournes dans ton pays, merci, bonsoir, tu sais. Fait que,
on recrée un genre d'esclavage.
Ah oui, on recrée vraiment une distribution du travail genré sur une autre échelle. Puis ensuite de ça, j'ai tout le temps pour...
Oui, il nous reste à peu près une minute. Okay. On me fait un signe exactement une minute,
exactement.
Pour conclure.
Bien, moi, je dirais, c'est ça que ce qui ressort le plus, mettons, dans mon travail, quand je parle avec les femmes, de la conciliation travail-famille, on peut l'appeler comme ça.
C'est comme ça qu'on l'appelle.
C'est comme ça qu'on l'appelle, là, les gens, les bonnes gens, c'est ça. C'est l'idée de temporalité, c'est-à-dire que le travail salarié, qui est le travail, justement, qui concerne l'individu autonome, l'individu indépendant, est organisé selon une version qui est très métrique, très capitaliste du temps, en fait. Ce que j'entends par là, c'est que c'est un temps qui est mesuré de façon très précise, le temps de l'horloge.
C'est ce que la musique... T'as pas les écouteurs, t'as,
okay,
t'entends pas ça.
J'entends pas ça.
On nous met la musique juste au moment où tu nous dis le temps calculé, qui nous dit qu'on n'a plus le temps.
Fait que voilà, c'est exactement... ça conclut bien mon propos.
Merci beaucoup, Laurence. C'est une réflexion très riche qui vaut la peine qu'on continue à y réfléchir. Merci.
Merci de m'avoir invité.
Alors voilà, c'est tout pour ce soir, pour notre émission sur les femmes. Je remercie Gab Paquette pour la composition du thème de l'émission, David, notre libraire et notre hôte, mes invités, Sylvie Nicolas, Mylène Brunet, Huguette Dugas et Laurence Simard. Merci à mon collaborateur L'Homme qui a vu l'Homme pour la mise en onde et le choix des pièces musicales. Merci à Big Nick qui nous héberge et nous diffuse sur son site Radio Fiat Lux où vous pouvez retrouver toutes les émissions de La Voix de la librairie en podcast. Et merci finalement à CKIA qui nous diffuse nos émissions en rediffusion le mercredi à 15h30. C'était La Voix de la librairie à Québec.